Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Antoine Béroux.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi avec à la une la grande boucle et bouclée lancée à Copenhague. On attend le sacre d'un Danois surpuissant, Jonas Vingegaard. De plus en plus de monde sur les Champs-Élysées, nous y sommes. On parlera également cyclisme féminin car les coureuses sont elles aussi attendues au Tour de l'Arc de Triomphe. C'est le départ du Tour de France femmes pour la première fois, une vraie course digne de ce nom. Notre invité pour en parler, le patron de l'équipe FDJ Suez Futuroscope féminine. Dans l'actualité également, le corps d'une octogénaire retrouvé dans un congélateur. Ça s'est passé près de Carcassonne. Son mari entendu comme témoin par les gendarmes. Des incendies monstres aux États-Unis, en Californie. Le feu qualifié d'explosif. Les séquoias du parc de Yosemite sous la menace des flammes. La météo, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
13 départements toujours en vigilance canicule.
Oui, d'autant que les températures s'offrent aussi le luxe de grimper encore un petit peu aujourd'hui. Ce sont les départements du Sud-Est, hein, toujours, qui vont de la Haute-Savoie jusqu'à la Méditerranée. Il y aura un soleil de plomb sur ces régions, évidemment, toute la journée, comme partout en France d'ailleurs. Au pire, un petit ciel un petit peu chargé en fin de journée sur la pointe bretonne. Ça pourrait même aller jusqu'à l'averse, mais rien de plus. Côté température, donc, même Lille va dépasser les 30 degrés avec 31 prévus cet après-midi. Comptez 32 à Rennes, à Paris, à Saint-Raphaël, 33 degrés à Mulhouse, 34 à Lyon, 36 degrés pour Bordeaux et Marseille, 38 à Toulouse, 39 degrés à Cahors. Température qui a amorceront la descente demain.
Merci Valérie. Place à Bernard Lehu. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
À 12h50, votre rendez-vous de l'été, Bernard, chemin d'écrivain. Qui sera notre guide ce dimanche?
Jean-Christophe Granger, le maître du thriller, vous emmènera à Berlin, la ville qui sert de décor à son dernier livre, Les Promises.
À tout à l'heure. Et on rejoint immédiatement Mathilde Pierret en direct des Champs-Élysées. Les coureurs attendus vers 18h, mais déjà Mathilde, l'ambiance qui monte sur la plus belle avenue du monde.
Oui, la foule grossit d'heure en heure derrière les barrières. Certains spectateurs sont là depuis 10h du matin déjà, comme Lucas et Clément, Bob Cochenou vissé sur la tête et siège à la main. Ils attendent avec impatience le passage des coureurs.
On attend ça depuis le début du Tour de France, hein, c'est ça. Hein. Et puis on est super content d'être là.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le Tour de France?
Les cadeaux, les vélos surtout, hein, le sport, c'est magnifique, hein, le vélo, le cyclisme. Hein, on supporte les coureurs comme jamais, on est chaud. Chaud patate, on a ramené le mégaphone aussi.
Allô, le Tour de France, c'est parti. Allez madame, vous allez gagner, c'est pour vous la victoire.
Et le mégaphone, Lucas l'utilisera pour supporter l'équipe du maillot jaune à fond, comme il dit. Sur les champs, on voit aussi beaucoup de drapeaux rouges et blancs ce midi. De nombreux supporters danois sont venus exprès supporter leur champion, à l'image de Yann.
Nous avons roulé depuis le Danemark depuis 8 heures hier soir et nous sommes arrivés ce matin parce que Jonas Vingegaard a le maillot jaune. Bien sûr que nous sommes fiers, il est du Danemark et l'équipe danoise est très très bonne cette année.
Alors peut-être que vous l'entendez derrière moi, en tout cas l'ambiance est joyeuse et bon enfant sur les champs. Les sourires et les drapeaux sont là, prêts à accueillir les coureurs.
Et avant les Champs-Élysées, merci Mathilde Pires. Le peloton aura fait un détour par la région parisienne, le départ donné à la Défense Arena. L'heure du sacre pour Jonas Vingegaard et son équipe de la Jumbo-Visma. C'est son coéquipier Wout Van Aert qui est pressenti pour la victoire au sprint. Ce sera à vivre dans un club Jalabert XXL de 19h à 21h.
RTL Midi avec Antoine Cavallero.
On en vient à cette découverte macabre, le corps d'une octogénaire retrouvé vendredi dans un congélateur dans sa maison près de Carcassonne. Une enquête a été ouverte. Valentin Larquier, le mari, est entendu actuellement par la gendarmerie.
Oui, il est entendu comme témoin par la brigade de recherche de Carcassonne depuis hier, mais aucune garde à vue pour l'instant, confirme le parquet. C'est samedi matin que le corps sans vie de cette dame âgée de 81 ans est retrouvé dans le congélateur de sa maison. Elle habitait dans le village de Salsigne, à 20 km au nord de la cité audoise. Pour l'heure, on ne sait rien des circonstances de ce drame. Le décès semble toutefois récent, puisque la vieille dame aurait été aperçue dans le village vendredi. Est-elle tombée seule dans ce congélateur? Si c'est le cas, pourquoi n'en est-elle pas ressortie? Y a-t-il eu un l'intervention d'une autre personne. Toutes ces questions restent actuellement sans réponse, mais nul doute que l'enquête et l'autopsie effectuée dans les prochains jours devraient permettre d'en savoir plus sur cette macabre découverte.
Valentin Larquier en Occitanie pour RTL. Et toujours dans la région, un homme de 30 ans a immolé ses parents par le feu. C'était la nuit dernière à Perpignan. Les parents sont gravement brûlés. Ils sont hospitalisés. Le fils est en fuite, activement recherché. En Gironde, le feu de l'Antiras est maîtrisé, mais pas encore fixé. Les pompiers toujours très vigilants. À la Teste de Buch, en revanche, l'incendie ne progressera plus. Tous les habitants évacués, autorisés à rentrer chez eux. Soulagement après plus de 10 jours d'angoisse. Mais pour cette région si touristique, le bilan économique risque d'être très lourd. Les vacanciers renoncent ou hésitent. Maude, elle, a décalé son arrivée, mais elle compte bien profiter des 15 jours à venir.
J'avais loué à partir de la semaine dernière et effectivement, j'ai attendu quelques jours que la situation soit clarifiée et puis pour pas non plus, embêter les secours sur place. Vu les informations données par l'Office de tourisme, il y a encore plein de belles choses à faire. Donc on va pouvoir quand même profiter et des plages et puis des restaurants. Et là, aujourd'hui, à la Teste, le marché. J'ai regardé pour des excursions en bateau sur le bassin et puis je pense qu'on va aussi aller profiter de se balader à Arcachon, profiter de tout ce qui peut se faire. Enfin, je suis de la région, donc ça me touche aussi, hein, tout ce qui s'est passé. Donc, soutenir les gens sur place, c'est important.
Témoignage au micro RTL de Juliette Chénion. Et puis on l'apprend ce matin en Bretagne, le feu des Monts d'Arrée est enfin fixé. Les incendies qui se multiplient chez nous, mais aussi chez nos voisins européens ou encore aux États-Unis, frappés actuellement par une vague de chaleur extrême. Un feu qualifié d'explosif ravage un comté de Californie en ce moment. Nicolas Burnand, bonjour.
Oh, bonjour.
Les flammes qui se rapprochent des célèbres séquoias du parc de Yosemite.
Oui, sur les réseaux sociaux américains, des images apocalyptiques montrent la forêt et les sapins en flammes, des épais panaches de fumée blanche qui s'élèvent dans le ciel, avec ses habitants piégés sur la route comme cette conductrice terrorisée au moment de traverser un mur de feu.
Mon Dieu, je t'implore de nous aider. Aide-nous à nous retrouver en sécurité. C'est une épreuve éprouvante qui doit s'arrêter.
L'incendie hors de contrôle a déjà parcouru plus de 4800 hectares, détruit au moins une dizaine de propriétés. Les services de secours sont dépassés par l'ampleur de la catastrophe.
7 personnes qui sont actuellement dans une maison ne peuvent pas sortir. Ils sont coincés, ils essaient de se protéger de la fumée.
Jusqu'à maintenant, plus de 6000 personnes ont été évacuées. Ce couple d'Américains qui s'exprime à la télévision locale vient d'abandonner sa maison.
Le feu est en train de tourner très très vite.
J'espère que les pompiers arriveront à l'éteindre avant que cela ne détruise toutes les maisons.
L'état d'urgence a été décrété par le gouverneur de Californie dans cette région habituée aux feux de forêt, mais dont l'ampleur et l'intensité se sont aggravées ces dernières années. Phénomène que les scientifiques attribuent au changement climatique.
Merci Nicolas Burnand. Cet incendie en pleine canicule aux États-Unis, on attend jusqu'à 43 degrés dans l'Arizona aujourd'hui. L'Amérique du Nord, vers laquelle s'est envolé ce matin le pape François, visite au Canada avec un moment très fort attendu. Les excuses répétées de l'Église pour le drame des pensionnats pour autochtones, plus de 150 000 enfants enrôlés de force, coupés de leur famille, de leur culture et souvent victimes de violences. La Formule 1, le Grand Prix de France, c'est cet après-midi au Castellet à 13h. On appellera Frédéric Veil, notre spécialiste sport mécanique. Encore une ambiance de folie aujourd'hui. À suivre également cet après-midi, le Tour de France Femmes, le départ donné à 13h30 sous la Tour Eiffel, l'arrivée sur les Champs-Élysées dans l'après-midi juste avant ces messieurs. Enfin, un vrai Tour féminin. Alors oui, il y avait bien eu quelques tentatives, on se souvient de Jenny Longo dans les années 80, mais cette fois c'est une vraie compétition professionnelle diffusée en direct à la télévision. 8 belles étapes. On en parle avec le directeur de l'équipe FDJ Suez Futuroscope, Stéphane Delcourt. Bonjour.
Bonjour.
La meilleure équipe française de ce Tour Femmes. Vous êtes 3e au classement mondial. Alors, je voulais tout d'abord vous faire écouter une archive d'un de vos collègues, de votre homologue chez les hommes, Marc Madio. Nous sommes en 1987. Il est sur un plateau de télévision à côté de Jenny Longo.
Je vais être très clair, voir une femme danser c'est très joli, voir une femme jouer au football c'est moche, voir une femme sur un vélo c'est moche, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, je suis contre le cyclisme féminin. Voir Evelyn Ashford faire du 100 mètres c'est très joli à voir, elle est belle à regarder, elle est belle dans l'effort, vous êtes moche, je suis désolé.
Stéphane Delcourt, aujourd'hui ces propos ils semblent complètement inimaginable. Mais est-ce que les mentalités ont vraiment changé dans le vélo? Est-ce que les coureuses sont mieux vues par le milieu?
Oui, alors on parle de
c'était en 1987, ans, voilà.
Ça a changé. Alors après, ça prend du temps. Je trouve que ça a vraiment changé depuis ces 5 dernières années. Mais à l'image de la femme dans la société, où il a fallu beaucoup d'années pour que ça change enfin. Et le combat n'est pas terminé, mais sur le fond, il y a quand même eu de très très gros changements. Tout s'est accéléré. Et maintenant, c'est vrai qu'on arrive plus dans un cercle vertueux pour le cyclisme féminin.
Un événement avec 8 étapes, de Paris jusqu'à la super planche des belles filles, en passant par la Champagne. Une semaine de course, est-ce que ça paraît pas un peu court à Stéphane Delcourt?
Non, pour les premières éditions. Les structures ont besoin de temps pour être capables de vraiment maîtriser ce genre d'événement. Et 8 jours pour la première édition, ça va nous permettre de faire un premier bilan et de voir si c'est trop court. Ou si on a encore besoin de temps, plusieurs éditions à 8 jours pour aller plus loin. Les structures ne sont pas capables de tenir 3 semaines aujourd'hui. Par contre, physiquement, nos cyclistes sont largement capables de le faire.
Alors je sais que vous allez me dire qu'il ne faut pas comparer à outrance, mais quand même, le total des primes chez les hommes, c'est 2 282 000 euros. Chez les femmes, 250 000 euros. On est encore très loin de l'égalité là.
Oui, on est très loin, mais c'est notre première édition. On devrait comparer avec la première édition du cyclisme masculin de l'ère professionnelle. Moi, je vais être tolérant avec l'organisateur. Il connaît pas les retours sur investissement, il connaît pas la visibilité encore de son événement. ASO a au moins le mérite de nous créer des courses, et c'est le cas avec Paris-Roubaix, avec Liège-Bastogne-Liège, avec la Flèche Wallonne. Donc déjà, je leur dis merci. Par contre, je leur dis attention. Si le Tour de France marche bien, que la visibilité est au rendez-vous, que le public est sur le bord des routes, on pourra pas en rester là.
On gagne combien aujourd'hui quand on est coureuse professionnelle?
Alors, on a un minimum de salaire qui augmente chaque année par le législateur. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans une équipe pour le Tour comme la nôtre, donc 14 équipes pour le Tour dans le monde, les 14 seront au Tour de France, le salaire minimum est de 27 500 euros brut. Après, évidemment, les leaders ont des salaires beaucoup plus importants, hein, qui peuvent être 10 fois supérieurs à ce salaire minimum. Mais chaque année, on augmente. On sera à plus de 32 000 l'année prochaine pour atteindre 38 000 en 2025, qui sera le même salaire minimum pour les hommes du World Tour et les femmes du World Tour. Et là, déjà, on aura passé un gros cap.
Et parmi les leaders, une favorite, la néerlandaise Annemiek van Vleuten. On suivra aussi notre championne de France, Audrey Cordon-Rago. Merci beaucoup, Stéphane Delcourt.
Merci à vous et soyez nombreux à nous suivre.
Mais c'est promis, vous êtes le directeur, je le rappelle, de l'équipe FDJ Suez Futuroscope. Le Tour de France Femmes, ça commence dans moins d'une heure, de la Tour Eiffel jusqu'à la planche des belles filles. Et puis, avant de passer à la suite, un mot des Bleus. Ça y est, elles ont enfin vaincu la malédiction, qualifiée hier soir en demi-finale de l'Euro de foot. Victoire 1-0 contre les Pays-Bas. La prochaine affiche donne des frissons. Ce sera contre l'Allemagne mercredi. Une pause et dans un instant, on rejoint Nerissa Emani. Notre reporter vient de passer une semaine dans les gorges du Verdon. Vous avez suivi ses reportages. Elle nous dévoile les coulisses. A tout de suite sur RTL.
RTL Midi avec Antoine Cavallero. RTL Midi, Antoine Cavallero.
RTL, 1h moins le quart.
RTL,
7 jours, 7 reportages.
Vous les suivez toutes les semaines, nos reporters, avec vous en vacances. Et cette semaine, Nerissa Emani, vous étiez dans les gorges du Verdon. Bonjour Nerissa.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Vous venez de passer la semaine dans ce somptueux parc naturel entre les Alpes de Haute-Provence et le Var, quand le bleu turquoise des lacs rencontre la roche calcaire et la pinède. Vous étiez installé dans le village des Salles sur Verdon. Alors vous êtes arrivé en pleine canicule, mais là-bas, la sécheresse, elle dure depuis plusieurs mois maintenant. Les gorges sont asséchées. C'est d'ailleurs l'un des premiers témoignages que vous avez pu recueillir, celui d'un couple au lac de Sainte-Croix.
Ouais, mais ça a commencé à baisser l'année dernière, et là, c'est de pire en pire d'année en année. C'est moins drôle, c'est plus triste.
Combien on a eu depuis une semaine de pluie, depuis le début de l'année, pas plus?
Depuis au moins un mois, deux mois, on n'a plus le droit d'arroser le jardin, le potager, tout ça. Restriction interdite, hein. à part les paysans pour les cultures, mais c'est tout.
Cette sécheresse, Nerissa, c'est ce qui vous frappe quand vous arrivez sur place?
Oui, on le voit dès qu'on arrive au bord du lac de Sainte-Croix. Les plages sont très grandes. L'eau a reculé par endroits, jusqu'à 100 mètres par endroit. Le lac a perdu au moins 6 mètres de profondeur. Il y a même des îles qui sont apparues, des îles accessibles à pied. Le plus désagréable, en fait, c'est la boue, l'argile, vous savez, sur les les bords du lac. J'ai essayé de me baigner plusieurs fois et vous avez les pieds dans la boue pendant 4-5 mètres. Bon, après, il faut plonger. L'eau est turquoise et très profonde au milieu du lac. Il n'y a aucun souci. En fait, le vrai problème, c'est surtout sur les hautes gorges du Verdon et sur le lac de Castillon où là, la sécheresse pose vraiment problème.
Ouais, il faut pas oublier ces méduses. Hein.
Non, il faut pas oublier des petites méduses ou des petites chaussures, vous savez, pour se baigner. C'est bien plus agréable. Vous prenez pas les cailloux et vous avez les pieds propres.
Cette sécheresse, Nerissa, elle touche forcément les cultures de la région et notamment la plus connue, la lavande. Vous avez pu vous rendre sur le fameux plateau de Valensole qui attire des milliers de touristes chaque année. Il faut dire que le selfie est quasiment réussi à tous les coups. Sauf que pour les agriculteurs qui vivent de cette lavande, c'est une année très compliquée.
On est en fin de récolte parce que cette année, vu la sécheresse et tout, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, il y a vraiment le réchauffement climatique. On est à 60 kg l'hectare au lieu d'avoir 100 à 120 kg l'hectare.
Parce qu'il n'a pas plu ?
Parce qu'il n'a pas plu. Il faut savoir que depuis le mois de janvier chez nous, on a eu 40 mm d'eau. C'est insignifiant. Je n'avais jamais vu ça.
Et c'est un constat qui est partagé par les autres cultivateurs de lavande ?
Oui, exactement. Ce constat est partagé. En fait, quand vous arrivez sur le plateau de Valensole, c'est assez frappant. Les plants de lavande sont très bas. La récolte vient juste de se terminer, vous l'entendez, et c'est assez précoce. C'est 2 semaines en avance par rapport à d'habitude, tellement il a fait chaud. Les brins de lavande sont plus courts, donc il y a un rendement plus faible. Et le problème se répercute chez les apiculteurs. La récolte est très mauvaise également cette année.
Et cette sécheresse, Nerissa, elle a évidemment un impact sur le tourisme. On a vu ces photos des gorges asséchées du lac avec un niveau très bas par endroit, vous nous en parliez. Et du coup, beaucoup moins de touristes que l'été dernier. C'est ce que vous ont affirmé ces guides touristiques.
Je pense que les gens, ils sont réticents à venir.
Ouais, il y avait pas mal de mauvaises pubs avec le fait que y a moins d'eau cette année. Il n'y a pas eu de neige cet été. Il n'y a pas de pluie depuis quelques temps déjà. Donc les nappes s'assèchent.
Ouais, vous confirmez, Nerissa, il y a moins de touristes.
Exactement. Il n'y a pas de plage surpeuplée, pas d'embouteillage, de problème pour se garer. Alors ça, c'est le positif. Mais vous l'entendez, pour les professionnels du tourisme, c'est très, très difficile. Il y a eu beaucoup d'annulations de dernière minute dans les campings, dans les hôtels. Les terrasses des restaurants sont quasi vide, notamment aux Salles sur Verdon, là où j'ai résidé. Et pour les activités, c'est facile de s'inscrire pour le jour même. Donc, tous ces professionnels se posent la question de l'adaptation pour les années à venir. Est-ce qu'il faut mettre en place plus de randonnées, d'activités sur la terre ferme, par exemple ?
Bon, mais vous avez quand même pu profiter un petit peu. Vous avez fait notamment du canoë.
Oui, c'était magnifique, c'était magique. Un moment dont je me souviendrai très longtemps, c'était du canoë au coucher de soleil dans les gorges du Verdon. Je vous le conseille.
Et vous avez aussi fait un petit peu d'escalade, je crois.
J'ai fait de l'escalade, j'ai fait de la randonnée, j'ai donné beaucoup de ma personne. pour vous dire la vérité, je reviens à Paris avec des bleus, des boutons de moustique et des courbatures.
Oui, mais des étoiles
plein les
yeux.
Le Verdon, c'est sportif. Et des étoiles plein les yeux.
Merci Nerissa et Mani, merci de nous avoir fait découvrir cette magnifique région. À partir de demain, vous suivrez Morad Djabari le long du canal du Midi entre croisière fluviale et randonnée à vélo. Rendez-vous dès demain matin. Dans un instant, comment le maître du thriller Jean-Christophe Granger a écrit son dernier roman ? Comment s'est-il laissé séduire par Berlin ? Il se confie à Bernard Lehu ses chemins d'écrivain. Et c'est juste après ça.
Antoine Cavallero, RTL Midi. Chemin d'écrivain, Bernard Lehu.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ce deuxième rendez-vous de l'été, je vous propose de rejoindre Jean-Christophe Granger à Berlin. Le maître incontesté du thriller français a fait sensation dans son dernier livre en mêlant pour la première fois à son genre de prédilection le roman historique. Les Promises, publiées chez Albin Michel, mettent en scène, à la veille de la déclaration de guerre par Hitler, un mystérieux tueur en série d'épouses de dignitaires nazis. La reconstitution du Berlin de 1939 est absolument impressionnante, et c'est donc avec l'auteur en personne que nous allons partir à la recherche des derniers vestiges du Berlin du Troisième Reich. Jean-Christophe Granger nous attend sur l'artère principale, l'axe historique de la capitale allemande.
L'avenue des Tilleuls, on y est, hein ?
Unter den Linden.
C'est une avenue
qui avait cette particularité à l'époque de mon livre, c'est-à-dire en 1939, de plus avoir du tout de tilleul, justement, parce que les nazis avaient retiré tous les arbres pour mettre des colonnes de marbre carré assez impressionnantes, surmontées évidemment de croix gammées, d'aigles. Donc cette avenue qui était ombragée, chaleureuse et poétique, elle était devenue une espèce d'immense artère rectiligne terrifiante.
Et donc là, à notre gauche, c'est la porte de Brandebourg, évidemment, le monument le plus célèbre de Berlin.
Alors dans mon livre, la porte de Brandebourg, elle est très importante parce que, non pas en tant que telle, mais parce qu'elle est juste à côté de l'hôtel Adlon, qui est le lieu de réunion de ces fameuses promises qui sont des grandes dames du Reich. Et oui, on est au cœur de Berlin à ce moment-là.
Allez, Jean-Christophe Granger, eh bien, entrons à l'hôtel Adlon, qui est quasiment jouxte la porte de Brandebourg.
Historiquement, ce lieu était très très important. C'était un des plus grands palaces de Berlin, où les nazis faisaient des réunions et ce genre de choses. Mais il y avait aussi des clubs de femmes, où elles mangeaient des petits fours et elles buvaient du champagne. Et dans mon livre, il y a justement un club de femmes qu'on appelle les dames de l'Adlon, et qui sont alors frappées par un tueur mystérieux. Donc cet hôtel, c'est un lieu de légende. Et donc j'aimais beaucoup cette image de ces femmes apparemment futiles, parce qu'évidemment dans le livre on va comprendre tout un tas de secrets à propos de ces femmes qui buvaient du champagne alors que la Deuxième Guerre mondiale allait déclarer, et qui avaient l'air tout à fait indifférentes au monde du nazisme, alors qu'elles étaient elles-mêmes des épouses, des dignitaires nazis. Et donc j'ai pu reconstituer, je pense, l'atmosphère qu'il y avait dans cet hôtel Adlon, dont un des salons accueillait mes dames, qui faisaient passer sur leur gramophone des disques de jazz.
Nous arrivons maintenant sur ce qui est la première scène de crime de votre roman, Jean-Christophe Granger, en plein cœur de Berlin.
Oui, c'est l'île au musée qui regroupe des très très beaux monuments et sur laquelle on va trouver un premier corps. Et ensuite, on trouvera un autre corps à l'autre bout de l'île. Et c'est un lieu de pierre et d'eau. Et donc, peu à peu, les enquêteurs vont avoir cette prémonition que l'eau joue un rôle très important dans le rituel du tueur et fait partie sans doute de ses obsessions.
Alors l'une des grandes scènes d'action, c'est une scène de traque entre vos trois héros, vos trois enquêteurs et un suspect. Elle se passe dans le métro de Berlin. On y va.
Il y a une sorte de mythologie de Berlin, des choses qui reviennent toujours. Et je trouve que les métros de Berlin sont très visuels, ils sont jaunes. Et ils ont quelque chose comme ça de tout à fait théâtral. Je ne concevais pas d'écrire un roman policier à Berlin sans poursuite dans le métro. C'était un passage obligé avec les passages souterrains, les passages aériens, enfin toute une possibilité de chemin, une sorte de montagne russe comme ça, du suspense. Et oui, Berlin, c'est une ville de suspense et de métro. C'est une alliance qui marche très bien.
Dernière étape, Jean-Christophe Granger, l'ancien site de la Gestapo.
On est vraiment au cœur du mal, où il y avait Himmler, Heydrich et tous les affreux.
Donc, et Beven, donc cet agent de la Gestapo qui va être mêlé à l'enquête qui tourne autour des promises.
Voilà, donc c'est vraiment le lieu où va se passer beaucoup de choses, d'où l'enquête est organisé. Et alors il y a énormément de scènes dans mon livre où on est dans ces bureaux étranges, parce qu'en fait ils avaient investi l'ancienne école des Beaux-Arts, donc c'était un lieu très beau, très noble, et dans lequel ils avaient compartimenté des petits bureaux qui étaient autant de salles de torture. En fait, tout a été bombardé à la fin de la guerre. Aujourd'hui, avec les vestiges, ils ont créé ce musée qui essaye de faire revivre donc ces années de pure terreur, où dans mon livre d'ailleurs, le héros raconte que quand on passe même devant ce bâtiment, on a tendance à changer de trottoir.
Il reste malgré tout une chose, ce sont les caves de la Gestapo.
Dans les caves où Jadis, il y avait des tableaux, des sculptures, enfin toutes les archives de l'école des Beaux-Arts. Ils avaient creusé des cellules dans lesquelles ils mettaient les prisonniers. Il y a ce côté témoignage de Pierre qui est très bouleversant. Bon, ils ont trouvé quand même pas mal de photos qui montrent à quel point c'était une bureaucratie du mal.
Et alors, les hasards de l'histoire font que ces anciennes caves de la Gestapo aujourd'hui longent des vestiges du mur de Berlin.
Alors là, oui, on a un petit peu une double couche de l'histoire. Donc, dans un premier plan, on a ces murs de briques qui étaient les murs des cellules. Hein. Et juste derrière, on a le vestige du mur, donc autre époque, autre mœurs, et qui est pas mal lugubre aussi. Hein. On peut dire que là, quand même, on a double peine.
C'était le chemin d'écrivain de Jean-Christophe Granger dans le Berlin du Troisième Reich, où ce qu'il en reste, c'est le théâtre de son dernier roman, Les Promises, et c'est publié aux éditions Albin Michel. Vous pouvez retrouver cette émission sur l'application RTL. Dimanche prochain, nous emprunterons un chemin sur l'eau, à la fraîche, dans la Venise verte, au cœur du Marais Poitevin, en compagnie de la navigatrice et romancière Isabelle Autissier. Dans un instant, le retour de l'information. Je vous souhaite un très bel après-midi.
Passez un bel été sur RTL.
RTL, revivre ensemble.
RTL, il est 13h. Principales informations à retenir. Le Tour de France, tout d'abord, évidemment, l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et sauf énorme surprise, Jonas Vingegaard, sacré ce soir, le Danois de la Jumbo, roi du peloton. Son coéquipier Wout Van Aert risque d'aller chercher la victoire d'étape, faire honneur à son maillot vert. De plus en plus de villes s'y mettent. Le gouvernement veut généraliser, obliger les magasins à fermer leurs portes quand la clim est en marche et interdire les publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin. La ministre de la Transition énergétique s'engage à prendre des décrets. À l'étranger, la Russie se justifie. Le bombardement hier du port d'Odessa, les frappes visaient des infrastructures militaires ukrainiennes selon Moscou. D'après l'accord signé vendredi, le blé ukrainien est censé partir de ce port. Accord donc menacé. Et puis comme promis, la Formule 1, on retrouve Frédéric Veil au Grand Prix de France, envoyé spécial au Castellet. Bonjour Frédéric.
Bonjour Antoine.
Énorme ambiance, le départ donné à 15h avec Charles Leclerc en pole position.
Oui, Charles Leclerc qui est un petit peu le régional de l'étape, hein, puisqu'il est né tout près d'ici, qu'il a commencé la compétition en karting à 30 km à peine du circuit Paul Ricard. Charles Leclerc, très acclamé par le public depuis 3 jours maintenant et qui, vous l'avez dit, s'élancera en tête devant Max Verstappen. Le duel Ferrari-Red Bull, c'est ce qui nous attend cet après-midi pour ce 12e rendez-vous de la saison. Il faut aller beaucoup plus loin, malheureusement, dans la grille pour trouver nos deux Français. Esteban Ocon s'élancera en 10e position, Pierre Gasly en 14e, nos deux pilotes tricolores qui ont à cœur de bien faire, évidemment, devant des tribunes bleu, blanc, rouge, des tribunes qui, à 2h du départ maintenant, continuent de se remplir avec de bien jolis drapeaux bleu, blanc, rouge également qui sont actuellement brandis, parce qu'il y a les Alpines de la Gendarmerie nationale qui sont en train de faire un défilé là juste devant le public. C'est assez magnifique ce qu'on est en train de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va faire très très chaud, plus de 33 degrés. Ce n'est rien à côté de la température sur piste qui va, elle, va grimper à plus de 50 degrés tout à l'heure au moment où les 20 monoplaces vont s'élancer pour ce 70e Grand Prix de France de Formule 1 qu'on va vous faire vivre toute cet après-midi sur RTL.
Oui, et Frédéric, j'avais une question pour vous, parce que je me demande quand même, est-ce que c'est pas un peu long pour les spectateurs d'attendre comme ça tous ces tours de piste sous un soleil de plomb ?
Ah ben ils ont eu de l'animation depuis ce matin, puisqu'il y a eu Formule 2 avec la très belle deuxième place du Français Théo Pourchaire. Il y a eu la Porsche Cup, donc il y a de l'animation constamment sur la piste. Alors c'est vrai qu'être en tribune en plein soleil par le temps qu'il fait, voilà, il faut prendre des précautions. On voit évidemment tous les gens qui ont des casquettes. Il y a ces célèbres Bob, Paul Ricard qui ont été distribués à foison un petit peu partout pour tous les spectateurs. Et puis ben, on arrose beaucoup les visages, on s'hydrate beaucoup et on boit beaucoup évidemment, parce que je vous dis, la chaleur, elle est terrible. Heureusement, le vent est en train un petit peu de se lever. Donc, ça fait du bien de temps en temps. Mais je peux dire qu'il vous fait très, très, très chaud ici dans le Var.
Merci beaucoup, Frédéric Veil, spécialiste Formule 1 ici à RTL. Et on continue justement de parler météo avec les prévisions pour cet après-midi. Du soleil partout en France, avec quelques nuages tout de même sur la pointe bretonne. Des nuages qui laisseront échapper quelques gouttes de pluie en fin d'après-midi sur le Finistère, des températures comprises entre entre 22 et 40 degrés cet après-midi. RTL, il est 13h03, tout de suite, les voix du crime avec Agnès Bonfillon.